venons de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire. Je te baptise journaliste. Baptise journaliste.
Radio Canu, 102.2.
Canu Info.
Gloire au travail.
Bonjour.
Bonsoir.
Et
c'est l'heure du
Canu Info
du mercredi. Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Bonsoir. Ah, il n'y a que le mien qui est allumé, du coup jaune et orange. Ah,
Bonsoir.
Bienvenue sur le Canu Info, vous écoutez Radio Canu. Il est 19h passé de 3 minutes et on va commencer, hein, parce qu'on est un petit peu en retard. Alors ce soir, de quoi on va parler? On va parler de répression dans les prisons de France.
Des fameux tags sur le mémorial de la Shoah.
De la situation à Gaza.
Et puis après de la situation à Gaza.
Ouais, et puis après de la situation dans le monde.
Voilà.
Ouais, parce que nous, on est comme ça, la situation dans le monde.
Et puis après,
et on finira quand même
dans les colonies.
C'est ça, par ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. On dirait que les autres journaux aujourd'hui commençaient par ça, mais nous, on va finir par ça.
Bah, oui. Ah, le Q marche toujours pas.
Allez, un flic à la baille. C'était hier en fin d'après-midi à Cholet. Plusieurs policiers municipaux avisent une voiture dont le passager n'a pas mis sa ceinture de sécurité. Coup de sifflet, mettez-vous sur le côté, montrez-nous vos papiers. Sauf que non, le passager ne veut pas montrer ses papiers. Il préfère sauter dans la rivière et s'enfuir à la nage. Le conducteur, lui, qui est encore sur place, s'en serait pris aux agents. On va savoir ce que ça veut dire en vrai, sur qui s'en est pris à qui. Mais enfin, à la fin, ça se bouscule un peu. Et pouf, un flic se retrouve à l'eau. Voilà, rien de plus, c'était juste pour la bonne humeur.
Et le bureau de l'Assemblée nationale a rejeté la transformation du groupe d'études France-Palestine en un groupe d'amitié France-Palestine. Donc ça aurait surtout permis au groupe d'amitié d'obtenir des fonds et de pouvoir faire des initiatives tant diplomatiques que culturelles. Mais a priori, le gouvernement et la droite n'ont pas voulu. Et comme ils ont la majorité à la présidence de l'Assemblée nationale, ils ont pu bloquer la transformation.
À Mayotte, un nouvel aéroport sera construit pour remplacer l'aéroport actuel qui est menacé par un volcan sous-marin. Alors là, tout est réglé, les dates sont décidées, tout ça. Alors voilà, à Mayotte, ça fait des mois et des mois qu'il n'y a pas d'eau potable, ou alors genre plutôt un jour sur trois. Une des conséquences de ce manque d'eau potable, c'est qu'une épidémie de choléra s'est déclenchée, qu'un bébé en est mort il y a quelques jours. L'État français est clairement incapable de gérer le quotidien des habitants et des habitantes. Moi, si j'étais maorais, je crois que je trouverais que la priorité, c'est quand même d'avoir de l'eau potable, d'avoir des soignants, d'avoir des services sociaux, bien avant la question des avions. Mais j'imagine que si j'étais maorais et élu macroniste, j'aurais sans doute pas trop de soucis à me faire personnellement pour l'eau potable et que ma priorité, finalement, ça serait quand même les avions.
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Alors, eh bien, alors on va parler de la répression dans les prisons de France. Adeptes de la punition collective, les matons des prisons ont décidé, suite à la mort de deux de leurs collègues, de bloquer bon nombre de prisons partout en France et de faire des opérations Prison morte, c'est-à-dire prison morte, hein, c'est durcir encore plus la vie des détenus qui sont à l'intérieur. Bloquer une prison pour les matons, ce n'est pas seulement brûler des palettes devant l'entrée, c'est aussi déposer les clés, comme ils disent. Conséquence, tout le monde en cellule, plus personne ne sort. Fini les quelques heures de promenade, fini aussi la cantine, ces petits plus qui améliorent sensiblement la vie à l'intérieur, fini les parloirs avec son avocat, fini les parloirs avec sa famille, avec son ou sa pote, fini également les ateliers, les bibliothèques, bref, tout ce qui est autre en dehors de son 7 mètres carré de cellules, enfin je dis 7, hein, c'est un peu au hasard. Les opérations en prison morte, ce n'est pas la mort, la mort de la prison, mais la mort par l'ennui, la mort par tout ce qui concerne les gens, la mort des gens à l'intérieur. L'intersyndicale appelle à plus de mesures sécuritaires. À Rouen, par exemple, un surveillant peste contre l'extraction d'une détenue nécessitant des soins en cancérologie transférée avec un fourgon de police et plusieurs motards. Il dit, je cite, quand on veut les moyens, on les trouve. Pour ceux qui se demandent si la CGT pénitentiaire qui fait partie de l'intersyndicale est un syndicat comme les autres, je vous conseille la lecture du texte sur le site numéro 0, on le mettra en lien, qui s'appelle la CGT pénitentiaire, un syndicat comme les autres, point d'interrogation. Et donc, en gros, et si les matons sont des travailleurs comme les autres, leur sous-texte, les surveillants et surveillantes pénitentiaires travaillent pour l'État à maintenir enfermée une partie de la population, majoritairement pauvre. Ils ont peut-être de mauvaises conditions de travail, alors pourquoi les revendications de leurs syndicats reviennent-elles principalement à durcir la vie des prisonniers et des prisonnières ?
Canu Info.
Dans la nuit de lundi à mardi, des individus cagoulés ont dégradé le mur des Justes. Le mur des Justes, c'est ce machin qui est devant le mémorial de la Shoah, où il y a des plaques qui listent les 3900 hommes et femmes, enfin, ou en tout cas 3900 qui ont été reconnus par la suite, qui ont contribué à sauver des Juifs et des Juives pendant la Seconde Guerre mondiale. Les tags ont été effacés après. Une dizaine d'autres lieux ont également été tagués dans le quartier du Marais, qui est à Paris vraiment le quartier communautaire juif, on pourrait dire. Des lieux du type école ou crèche, semble-t-il, d'après le maire de Paris-Centre. Voilà. Bon, alors, c'est vrai, on ne sait pas trop ce que ça veut dire ces tags, puisque du coup, c'est juste des empreintes de mains rouges. Les mains en question, par exemple, sont sur le mur des Justes. En tout cas, elles sont pas sur les noms des Justes. Ça veut dire qu'on n'a pas peinturluré vraiment les plaques. C'est en dessous. Alors voilà, on sait pas trop ce que ça veut dire. On sait pas si les gens qui ont fait ça, peut-être, ont quand même malgré tout pas tenu à tout tracher. Aucun nom a été rendu lisible, je veux dire. Alors la presse y va de ses analyses diverses, mais bon, ils sont bien obligés. Qu'est-ce que c'est que ces mains rouges? Quel symbole? Qui? Pourquoi? Est-ce que c'est antisémite? Est-ce que ça soutient Gaza? Est-ce que c'est encore le complot russe, le même que celui de quand il y avait des étoiles de David qui avaient été taguées à Paris dans le mois d'octobre dernier?
Ils apprennent quand même un peu leur leçon.
Ouais, c'est ça.
Parce que quand tu dis complot, c'est vraiment ce qui s'est passé.
Donc, je veux dire, pardon, effectivement, c'était pas ironique. En l'occurrence, c'était réellement un complot dans le sens où quelques personnes avaient inventé scénarisé un truc, fait ensemble une sorte d'action pour arriver à un truc qui est pas non plus hyper clair. Mais en tout cas, ça s'était réellement passé et c'était réellement téléguidé par la Russie. En tout cas là, en l'occurrence pour ces mains rouges, c'est chiant avec le truc de pas être explicite, c'est que en fait on comprend pas bien ce que c'est exactement ou quoi. Mais en tout cas, peut-être c'est quand même l'occasion de rappeler ici que les Juifs qui vivaient en France pendant l'occupation entre 1941 et 1945. Ces juifs-là n'ont sans doute jamais fait de mal à aucun Palestinien, ils ont bombardé aucun enfant, ils ont instauré aucun apartheid, ils ont colonisé personne. Les juifs et les juives françaises ou réfugiés qui vivaient en France à l'époque n'ont pas perpétré de génocide, ils et elles en ont plutôt été victimes. Il n'y a absolument aucun moyen de les rendre responsables des crimes qui se déroulent ces derniers mois à Gaza. Assimiler les juifs et les juifs qui vivaient avant Israël où les juives et les juifs qui aujourd'hui ne se revendiquent pas de l'État d'Israël, les assimiler aux crimes du gouvernement israélien, des colons, de l'armée israélienne, c'est vraiment tombé exactement dans le piège qui est tendu par des Netanyahou, je sais pas, des BHL, des Joe Biden, le gouvernement français, que sais-je, la liste est très très longue, le piège raciste qui prétend que l'État d'Israël, c'est l'État des juifs et que tous les juifs du monde ont quelque chose à voir avec l'État d'Israël.
Bah d'ailleurs, le plan des antisémites qui aimeraient bien se débarrasser des juifs.
Mais tout à fait.
Pour qu'ils retournent dans un pays, comme c'est... par exemple ils avaient essayé de faire en 40.
Absolument, absolument. C'est que, enfin bon, en tout cas, il y a eu un moment où les nazis et les gens, et l'agence, je sais plus quoi, mais une sorte d'agence juive qui voulait peupler la Palestine avec des juifs, ont brièvement, mais quand même, travaillé ensemble pour expédier des juifs d'Allemagne en Palestine.
Ça faisait partie des tentatives de solution finale.
Ouais, c'est ça. En tout cas. Alors c'est ça, ce que je voulais dire avec ça, c'est que le fait d'être fan des tueries à Gaza, ça vient pas de son nom de famille ou de la religion de son grand-père. Les gens qui soutiennent le massacre de Gaza, c'est une position politique qu'on peut adopter ou pas, et pas du tout génétiquement. C'est exactement aussi vrai pour les juifs et les juives que pour les autres, et il existe en France plusieurs organisations juives qui sont opposées à ces massacres, que ça soit l'UJFP ou Tzedek par exemple. Si jamais il était confirmé que les gens qui ont peint ses mains l'ont fait pour soutenir les Gazaouis, alors ces gens sont des racistes de merde et tout ce qu'ils ont soutenu, ou elles, c'est le racisme. Point final.
Canu Info. Du mercredi.
Pour autant, la guerre, les massacres, ce que certains appellent un génocide, alors moi je ne suis pas juriste international, tout ça continue à Gaza. Les nouvelles du jour.
Et les nouvelles du jour, c'est que pour le contexte, aujourd'hui, c'est le 70e. Alors bon, il n'y avait pas d'autre terme qu'anniversaire, mais voilà, vous le comprendrez. De la Nakba, ce qui signifie catastrophe en arabe, qui a poussé des centaines de milliers de Palestiniens à l'exil lors de la création de l'État d'Israël. Médecins sans frontières vient d'évacuer l'hôpital de la ville de Rafah, pilonné par l'armée israélienne. RFI précise qu'il s'agit du 12e hôpital évacué par l'ONG en 7 mois de guerre. La situation continue d'être insoutenable, notamment depuis que l'armée israélienne a pris le contrôle de Rafah, un point de passage entre Gaza et l'Égypte. L'aide humanitaire ne rentre quasiment plus, c'est-à-dire encore moins qu'avant. Les blessés ne peuvent plus être évacués vers l'Égypte. Par exemple, la coordinatrice de MSF Palestine, Guillemette Thomas, déclare qu'ils n'ont pas pu obtenir l'aide humanitaire depuis le 6 mai, que ce soit de la bouffe, des médicaments ou du matériel médical. D'après l'OMS, 2/3 des hôpitaux de Gaza ont été rendus inutilisables par l'armée israélienne, c'est-à-dire 24 sur 36. Ceux qui restent fonctionnent dans des conditions ultra précaires. Pour la coordinatrice, en plus des dégâts importants sur les hôpitaux restants, le manque de matériel et de fuel pour faire tourner les générateurs... aggrave la situation. La conséquence due à la fermeture du point de passage à Rafah et plus aucune relève du personnel de santé n'est possible, ce qui continue encore plus à dégrader la situation. Pour cette coordinatrice, je la cite et je finirai là-dessus, il y a un hôpital à Rafah qui fonctionne aujourd'hui à mi-régime, non pas parce qu'il est dans une zone d'évacuation, mais parce que le personnel a peur d'y aller travailler, tu m'étonnes. Ils ont vu ce qui s'est passé à l'hôpital d'Al-Shifa à Nasser avec les arrestations de personnel de santé et avec la destruction des structures de santé.
Mais ne vous en faites pas. Benjamin Netanyahou, qui est certes un nazi sans prépuce. Ah merde, la direction de Radio Canu va. puisque nazi, c'est pas une ethnie, hein, rappelons-le, c'est bien une position politique. Benjamin Netanyahou, qui malgré tout n'est pas si méchant, a estimé aujourd'hui, et il s'en est réjoui, c'est pour ça qu'il n'est pas si méchant, qu'Israël avait évité la catastrophe humanitaire qui était redoutée par la communauté internationale à Rafah si l'armée israélienne attaquait. Donc lui, il trouve que pour le moment, dit-il, près d'un demi-million de personnes ont évacué la zone des combats à Rafah. Et il a ajouté que les forces israéliennes combattaient à travers la bande de Gaza tout en évacuant la population civile et en remplissant ses obligations de répondre à ses besoins humanitaires. Alors voilà, tout ce que tu viens de raconter, plus un demi-million de personnes évacuées, obligées de partir pour la xème fois depuis quelques mois de l'endroit où ils avaient réussi à se poser au milieu de ruines. Ces personnes donc affamées, malades, au milieu de bombardements, et donc là, à l'heure actuelle, comme tu viens de le dire, sans aucun hôpital encore en état de fonctionner, alors que les bombes tombent de tous les côtés. Ben voilà, pour Netanyahou, ce n'est pas une crise humanitaire, c'est la preuve de la gentillesse extrême de son armée. Et les autres nouvelles du jour, c'est enfin en tout cas c'est celle que moi j'ai vue là-dessus, c'est des nouvelles. C'est quoi le mot que je cherche ?
Réjouissante ?
Non, diplomatique.
Je savais que c'était pas
réjouissante. Non, non. Oh, bon, si, tu vas voir. Plusieurs pays européens, l'Espagne, l'Irlande, la Slovénie, Malte, pas du tout la France, ont décidé de reconnaître la Palestine comme État d'ici la fin du mois de mai. Alors, on ne sait pas exactement ce que ça implique, mais enfin, ça a l'air d'une bonne initiative plutôt. Et l'Union européenne, et cette fois-ci pas juste quelques pays, mais l'Union européenne en tant que telle, exhorte Israël à cesser immédiatement son opération militaire à Rafah. La poursuite de l'opération, ouvrez les guillemets, mettrait inévitablement à rude épreuve la relation de l'UE avec Israël, fermez les guillemets, a déclaré dans un communiqué le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Oulala, ça c'est radical. Voilà une diplomatie sans concession qui ne va pas hésiter à peiner Netanyahou peut-être et ses ministres. Enfin, si Netanyahou et ses ministres prennent une minute pour y penser. Mais pour le moment, aucune indication ne laisse penser que cette relation mise à rude épreuve pourrait déboucher sur de quelconques actes concrets, sur la moindre sanction ou quoi que ce soit. Enfin bon, il reste de toute façon pas loin de 2 millions de Palestiniens encore vivants à Gaza. Alors, on a bien le temps pour prendre des mesures.
De pas plus de 40 000 âmes, il est un guerrier qu'on appelait Ataï, cultivateur de banyan et d'igname, chef comalé du peuple des Kanaks, obtenu son titre malgré son jeune âge, dans le respect des coutumes ancestrales, gardien d'une quelques cinquantaine de cases, au nord de Nouméa, la capitale. Au contact des missionnaires, il apprend à parler le français. Une éducation complémentaire de celle dispensée par un sorcier. Apprendre à manier la fronde, dans la nature se fondre, devenir une ombre, bien entretenir les tombes sur ce qu'on appelle maintenant la terre des colons. Ils veulent nous faire croire qu'ils sont ici pour l'amour de la croix. Pourquoi nous repoussent-ils de nos forêts moites si ce n'est pour le commerce du bois? Ils sont arrivés ici avec leur bétail pour y construire des prisons et des bagnes, en pensant que nous étions des cannibales, installés partout des postes de gendarmes. Ils ont fait de nos femmes leurs femmes de ménage, dans le meilleur des cas quand elles servent pas d'esclaves. Refusent de nous les rendre quand on les réclame, c'est ce qui arrivera à la dénommée Katia. On a tous attendu son retour, mais le maître la séquestre. Quand un membre est amputé au groupe, c'est tout le village qui s'inquiète. Sortez les casse-têtes, aiguisez les sagues. Mélanésiens, enduisez vos corps de la suie de Bancoulier. Le sang va couler. Un raid de trois personnes, Ataï et deux autres hommes, au secours d'une autochtone, entre les griffes de ce caldoche. Une fois dans le corps de ferme, ils croisent des bêtes à cornes, ceux qui piétinent leurs ancêtres avec leurs sabots venus d'Europe. Une cheminée qui fume, il passe la clôture. Ataï n'hésite plus, il garde en tête l'honneur de sa tribu. Frappe sur la porte de son corps à demi nu, étouffe le feu pour que la lumière diminue. Je sais clair qu'à la lueur d'une demi-lune, engage le combat en moins d'une minute. Maître colon de la Calédonie, tenant un sabre de gendarmerie, déterminé à bien garder la fille qui lui sert d'esclave sexuel toutes les nuits. Tranche l'atmosphère de sa lame émoussée, frappe vers Ataï des coups désordonnés. Mais le Kanak se déplace comme vol la roussette. Le combat rapproché, c'est sa grande recette. Coup de silette sur le haut de la tête, la machette sans casque dans le corps tête, le maître tombe à terre de tout son être et Ataï emmène la jeune fille sous son aile. Il laissera les flammes faire le reste, un feu si grand qu'il touche le ciel. Mais la riposte viendra de l'est, plus vite que ne pense le chef. Son absence a laissé son village sans protection. Au loin, les détonations de fusils à piston. Ses plantes de pied accélèrent sur le sentier pierreux. Il voit son village et les soldats qui les forcent à sortir de chez eux. Abandonne le groupe, fonce dans la brousse, accourt pour mieux pouvoir briser leurs troupes. Tout autour est trouble, l'horizon se brouille, le cœur qui s'emballe, les idées qui s'embrouillent. Ataï a dégainé la sagaie, il lance sa lance sur l'assaillant. La bataille a débuté, là ça y est, il combat les traîtres tout enseignant. Mais un ennemi lui semble familier, serait-ce un Kanak de naissance qui en colon blanc se serait rallié et qui lui tranche le cou au nom de la France. Ataï fut décapité, son peuple colonisé, son crâne fut exposé dans les musées comme un trophée. Enfant du destin, enfant de la guerre,
enfant du destin. Enfant de la guerre. Tomale, Tiendanit, Kanala, Naketi, Kouaoua, Oroé, Neku, Hazareux et Kikoué. Enfant du destin.
Et du coup, c'était Ataï, Ataï de Médine.
Eh ben, on va faire un tour du monde, mais c'est très prétentieux. On va faire quelques brèves du monde, voilà. Et on va commencer par la Géorgie, où on va parler de la loi contre les influences étrangères. Et malgré les nombreuses manifestations en Géorgie, le projet de loi taillé sur le modèle russe pour lutter, je cite entre beaucoup de guillemets, contre les influences étrangères, a été adopté en troisième lecture ce matin. Ce qui le rend donc possiblement applicable. Malgré toutes les mobilisations continues, avec comme espoir de forcer la présidente du pays à utiliser son droit de veto, droit qui reste tout de même contournable par le Premier ministre avec un vote au Parlement. Depuis l'occupation militaire de la Russie, des régions géorgiennes de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, ce qui représente tout de même 20% du territoire, une immense majorité de la population est hostile à la Russie. En tout cas, une immense majorité de la jeunesse. Et voilà. Le risque de ce projet de loi est de museler toute opposition. Le même texte avait été voté en Russie en 2012 et a permis de museler la presse et les ONG dans ce pays. Pour faire court, si une ONG, un média, une asso reçoit plus de 20% de leur financement de l'étranger, ils doivent s'enregistrer en tant qu'agent de l'étranger. Les conséquences de ça sont un peu floues. Enfin, en tout cas, moi, j'ai du mal à les capter.
On dirait quand même que dans les pays où il y a eu des lois dans ce genre-là, de toute façon, après, n'importe quelle ONG qui est globalement hostile au gouvernement, on arrive toujours à prouver qu'elle touche plus du pourcentage donné de fonds de l'étranger.
Et par exemple, il y a plein...
Et du coup, ça donne le droit à la police de surveiller particulièrement les types. Et l'autre truc qu'ils disent dans le pays, c'est qu'en gros, notamment, ils comptent beaucoup sur le fait qu'il y ait des observateurs étrangers aux prochaines... élections législatives qui arrivent là en novembre, je dirais, enfin en tout cas à l'hiver, automne-hiver, et sur lequel l'opposition pro-européenne, on va dire, compte pour essayer de reprendre le pouvoir. Donc ils ont un peu peur qu'il y ait de la triche et que du coup, cette loi anti-agent de l'étranger, elle décourage les gens de venir vérifier qu'il n'y ait pas de triche. Et voilà.
Notamment parce qu'il y a plein d'ONG, de médias et tout qui ont dit c'est évident que nous on signera pas, parce que du coup c'est un peu déclaratif, mais on se déclarera pas comme tel. Après j'imagine que l'État peut dire on a vu vos financements, nous on vous déclare comme ça. Et du coup il y a des mesures pour le coup assez coercitives qui sont la fermeture du média, l'arrestation des gens, bref. En tout cas, les étudiants et étudiantes présents en nombre dans les manifestations ne comptent pas en rester là et comptent bien tout faire pour faire échouer cette tentative autoritaire. On va du côté de la Turquie et on va parler du procès dit de Kobané, le résultat du procès qui est attendu jeudi. Demain, un tribunal d'Ankara rendra sa décision concernant une centaine de membres du HDP dont son dirigeant, Selahattin Demirtaş. 108 personnes au total risquent la prison à vie, certaines beaucoup plus que d'autres, mais quand même, voilà, c'est un peu ça l'enjeu. Pour rappel très bref, en octobre 2014, alors qu'à Kobané, en Syrie, les YPG et YPJ affrontent l'État islamique pour ne pas que la ville tombe aux mains de ces derniers. De l'autre côté de la frontière, en Turquie, le parti HDP, interdit donc depuis, appelle à manifester en soutien à Kobané dans les rues du pays, et dénonce l'inaction et la complicité de la Turquie à laisser prospérer des milices djihadistes dans la zone afin qu'elles déstabilisent les forces kurdes. Erdogan avait déclaré que pour lui, Kurdes et djihadistes, c'était la même chose. Et on sait qu'il avait quand même plutôt tendance à favoriser
les musulmans. C'est ça, alors que évidemment non, puisque oui. En réalité, il a soutenu les djihadistes.
C'est ça, c'était un peu un des gros points de passage de la Turquie pour les personnes qui voulaient se rendre et aller... Bref. Au cours de ces manifestations, des affrontements ont eu lieu avec la police, entraînant la mort de 37 manifestants et manifestantes. Et on finit par Mayotte avec des nouvelles sanitaires. 78 cas de choléra ont été détectés sur l'île. Et si les épidémiologistes se veulent rassurants sur le risque d'une épidémie globale, les personnes précaires sur l'île sont les premières touchées. La plupart des foyers de contamination se situent dans les bidonvilles. Tiens, ces bidonvilles que le gouvernement a largement contribué à précariser avec les opérations Wambushu. Et on sait que le choléra, c'est vraiment la maladie de l'ultra-précarisation, puisque c'est la maladie qu'on trappe dans les eaux sales et infectées. Et voilà. Donc c'est quand on n'a pas un accès à l'eau potable, par exemple, suffisant.
Surtout le problème d'accès à l'eau potable, c'est pour le... En fait, ça se soigne très bien comme maladie. Mais par contre, il faut avoir de l'eau potable pour. En gros, tu bois de l'eau avec des médicaments, quoi. Et du coup, il faut beaucoup d'eau parce que le choléra a tendance à déshydrater. Et du coup, c'est vraiment. Enfin, là, le cause qui est mort, c'est clairement ça. C'est manque d'accès à l'eau potable. Du coup. Enfin, je sais pas vraiment son histoire, hein, c'est pas pour dire, mais en tout cas, c'est le cas classique de. Il vit dans un endroit où il n'y a pas d'eau potable, du coup, il peut pas prendre le traitement correctement, du coup, bah, il crève d'une maladie qui, si vous l'attrapez en France et que vous allez voir le médecin, vous serez. Bon, je dis pas non plus.
Plus le fait qu'en France métropolitaine, on l'attraperait pas parce que, par exemple, on peut se laver les mains. Là, en ce moment, à Mayotte, et particulièrement dans les bidonvilles,
oui,
se laver les mains, c'est un problème.
Non, mais c'était pour dire que vraiment c'est ce truc-là, c'est une maladie qu'on sait soigner.
Et qu'on sait prévenir
et
aussi.
Et qu'on sait prévenir, et que du coup c'est vraiment un truc de la précarité et du. Voilà.
Et bah c'est ça. En tout cas, pour endiguer l'épidémie, les écoles ferment provisoirement le temps de que les épidémies se calment dans les régions concernées. Et des centres de vaccination devraient ouvrir prochainement.
Radio Canu.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Alors, qu'est-ce qui se passe donc en Nouvelle-Calédonie ? Dites donc, 4 morts, là, juste avant qu'on entre en studio. Un gendarme, 3 autres personnes, dont au moins 2 étaient sans doute des indépendantistes, et puis une troisième, on ne sait pas bien. On ne sait pas non plus trop par qui ont été tirées les balles, a priori, qui ont tué ces gens, puisque, quand même, c'est un bordel sans nom. Entre les indépendantistes, entre, semble-t-il, des sortes de milices, peut-être citoyennes, peut-être patronales, peut-être, on ne sait pas exactement, et des gendarmes. Tout le monde fait n'importe quoi et tout le monde, n'hésite pas à tirailler dans les coins. Alors, on va écouter, pour la culture générale des jeunes qui ne se souviennent pas des années 80, et j'en connais dans ce studio, on va revenir un petit peu en arrière. Déjà, je suis sympa. Je remonte pas à la conquête par la France de là-bas. Là.
Ah ouais, c'était quand la conquête de là-bas ?
Je sais déjà même plus.
C'est ça. Hein.
Je dirais 17e siècle. Des velléités génocidaires déjà à l'époque. Tout ça. Bref, dans les années 80, les Kanaks, ils en ont marre de la colonisation. Et du coup, il y a un mouvement indépendantiste qui grossit. Qui devient un truc balèze. Ce mouvement est structuré dans le FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, parce que quand même, c'est des gens, ce qui les intéresse, c'est pas juste de virer les Français, c'est quand même derrière d'instaurer une société égalitaire. À l'époque, manifestations, blocages, barrages, il y a quand même un peu des armes qui sont sorties, des gendarmes métropolitains qui sont envoyés sur place. Bon, déjà, ça charcle bien à l'époque. En 88, un petit commando qui se revendique du FLNKS attaque une gendarmerie. L'attaque tourne pas comme qui que ce soit l'avait prévu, et du coup, ils repartent avec des gendarmes en otage. Ils se réfugient dans une grotte dans l'île de Ouvéa. à l'époque. Autant vous dire que c'est Chirac qui est Premier ministre, que c'est Pasqua qui est ministre de l'Intérieur, c'est la cohabitation, tout ça. Et que cette histoire se passe quelques jours avant les élections présidentielles, où Chirac va être opposé à Mitterrand et que Chirac il veut montrer, attention, déjà à l'époque, que la droite, c'est la droite. Et que comme aujourd'hui, je ne sais plus si c'est Attal ou Macron ou je ne sais pas quoi qui a dit ça, la priorité est le retour à l'ordre. Donc l'assaut est donné à la grotte par la gendarmerie, pas ceux qui sont otages mais ceux qui sont dehors. Les preneurs d'otages sont massacrés, mais alors bien bien massacrés, et y compris après s'être rendus. Bonne ambiance. En tout cas, après ce bain de sang, les négociations vont finir par aboutir. Entre-temps, d'ailleurs, Mitterrand a regagné les élections. Un accord est trouvé, Michel Rocard, tout ça. Enfin bon, vous les jeunes, ça vous dit rien, tous ces noms, mais quand même. Avec un processus d'autodétermination sur 30 ans. 30 ans pour l'État français pour essayer de mettre en place des réformes sur l'île, des réformes dont l'idée serait de prouver aux habitantes et aux habitants, et en particulier aux Kanaks, que c'est quand même vraiment cool d'être française ou français, citoyen, citoyenne de la République, tout ça. Et du coup, au bout de 30 ans, en 2018, référendum sur l'indépendance. À l'époque, ça pouvait sembler plutôt raisonnable de voir comme ça, de laisser les choses s'apaiser, de laisser s'apaiser 30 ans et puis de faire un référendum. Et ce qui était prévu, c'est que selon le résultat du référendum, une assemblée territoriale là-bas pouvait, s'il y avait plus de un tiers des représentants qui le voulaient, organiser un deuxième, puis jusqu'à un troisième référendum, mais pas plus. Et donc, en 2018, référendum, 56% contre l'indépendance. Bon, mais quand même, il y avait un certain nombre d'élus indépendantistes dans cette assemblée territoriale. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, on veut un référendum. Le référendum a lieu en 2020. Là, c'est plus 56%, c'est 53%. Du coup, les indépendantistes commencent à être un petit peu optimistes et se disent, avec le temps qui passe, on gagne des voix. Ça vaut sans doute le coup de faire un troisième référendum et de le faire le plus tard possible pour que le processus ait le temps de se faire. Et à ce moment-là, en 2020, il y a une sorte de discussion un peu tendue sur la date du troisième référendum. Les indépendantistes, ils veulent le faire le plus tard possible. Ce qu'on appelle les loyalistes, c'est-à-dire ceux qui veulent rester dans la République, et le gouvernement français veulent le faire le plus tôt possible. Enfin, c'est le gouvernement français qui décide de la date. Donc la question, c'est 2021 ou 2022. Le gouvernement français dit 2021. Alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous vous rappelez l'année 2020? C'était une sacrée année quand même. Il s'est passé un
truc. Vous avez tous appris à faire du pain.
Ouais, c'est ça.
Exactement. Moi, je travaillais, du coup, j'avais pas eu le temps d'apprendre à faire du pain.
Tu travaillais, mais fou. Mais vous avez aussi appris, pour une part d'entre vous, à travailler de chez vous.
Non, moi, je travaillais de pas chez moi.
Non, mais je sais, pour une part d'entre
vous. Vous avez appris à faire du pain et.
Bref, 2020, Covid. Mais en Kanaky, c'est une île, tout ça, c'est un peu protégé. Et le Covid n'est pas arrivé en 2020, il est arrivé en 2021. Il est arrivé pas très longtemps avant le référendum, et quand il est bien arrivé. Et bien sûr, comme beaucoup de maladies, comme le choléra dont on parlait tout à l'heure, le Covid a tendance quand même à s'attaquer, à faire des morts dans les populations les plus pauvres et les plus précaires. En Nouvelle-Calédonie, bizarrement, et bien qu'il y ait réellement eu des problèmes depuis les années 80, mais en Nouvelle-Calédonie, les populations pauvres et précaires, c'est qui? C'est les Kanaks. Et donc, hécatombe chez les Kanaks en 2021. Et à ce moment-là, du coup, les indépendantistes disent au gouvernement, bah là, franchement, le référendum maintenant, ça va pas être possible. Vous voyez bien que nous, on a autre chose à foutre, qu'il faut qu'on soigne, que si on va dans les bureaux de vote, on va se contaminer, qu'en plus, on a nos traditions, tout ça, qui font qu'on a le respect des morts, c'est un truc un peu compliqué, pesant. Ça va pas nous donner beaucoup de liberté de mouvement pour une campagne électorale, et tout bêtement pour aller voter. Là-dessus, le gouvernement français dit on en a rien à foutre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les Kanaks décident de boycotter ce référendum. Ce qui fait que, alors qu'on s'attendait à un résultat vraiment à 49-51% dans un sens ou dans l'autre, là on a plutôt 96% de non à l'indépendance, 3% de pour et 1% de pas prononcer. Pour Paris, tout est réglé, c'est bon. La Kanaky veut très massivement, à 96%, rester française. passez votre chemin, il n'y a rien à voir. En vrai, c'est pas tout à fait ça. Ils ont même un peu dit non, mais là, maintenant, il faut se réconcilier. Ils ont essayé d'organiser un peu des réunions, tout ça. Bon, les indépendantistes, ils étaient quand même pas bien contents de toute cette histoire. Ils ont un peu boycotté les réunions. Mais voilà, depuis, les choses se passent. Et alors, ce qui s'était passé en 1988 et jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quelques jours, c'était ce qu'on appelait le gel du corps électoral. C'est-à-dire que pour ces assemblées territoriales, les gens qui pouvaient voter étaient uniquement les gens qui étaient déjà présents ou dont les parents étaient déjà présents sur l'île au moment des accords qu'on appelait les accords de Matignon en 88. Ça, c'était dans l'idée parce que les indépendantistes se méfiaient en 88 d'un gouvernement français qui aurait...
78.
Il fallait... 88.
Ouais, mais 88, ah, il fallait être, là depuis,
il fallait être là depuis 10 ans.
En 60... okay. Donc ça fait 78.
Merci. Tout à fait. Pardon. Non, mais très bien. C'est ça, les indépendantistes se méfient un peu d'une tactique du gouvernement français qui aurait été de faire massivement migrer des métropolitains vers la Nouvelle-Calédonie de manière à ce que tout le monde après vote pour que la Nouvelle-Calédonie reste en France. D'où cette histoire de gel du corps électoral. Bon, et là maintenant, puisque pour le gouvernement français, toute cette histoire est terminée, tout ce processus est terminé, la Nouvelle-Calédonie reste dans la France, à ce moment-là, il n'y a plus aucune raison que le corps électoral reste gelé. Donc c'était le moment de là-dessus de faire rentrer la Nouvelle-Calédonie dans ce qu'on appelle le droit commun et de dégeler ce corps électoral et que tous les gens qui habitent en Nouvelle-Calédonie puissent voter pour la Nouvelle-Calédonie. Ce qui d'un côté a un sens, ce qui aurait un sens si ce qui s'est passé précédemment s'était passé correctement. Mais après, bah écoutez, la droite, c'est bien toujours la droite. Hein. C'est que de toute façon, c'est des gens qui tiennent à gagner avec juste en étant les plus forts, point final, et absolument pas en essayant de, je veux dire, avec aucun souci pour quoi que ce soit qui puisse ressembler à de la justice, à des principes, à quoi que ce soit. Donc là, l'important, c'était que la Nouvelle-Calédonie reste française. Alors, on peut se demander pourquoi l'État français tient à la Nouvelle-Calédonie. A priori, il y a deux réponses. C'est un coin où la France n'a pas beaucoup de terres. Et la France aime à être un petit peu partout autour du globe, de manière à ce que, je crois beaucoup pour des raisons militaires, parce que comme ça, il y a toujours quelqu'un qui peut avoir des jumelles et aller voir s'il n'y a pas un ennemi qui s'approche. Et par ailleurs, en Nouvelle-Calédonie, il y a des gisements de nickel un peu importants. Mais ça, la France, elle aime bien les garder aussi. Mais donc voilà, donc là Macron a dit non mais c'est bon là maintenant les indépendantistes vous nous faites chier, les canaques vous êtes bien sympas mais maintenant il va peut-être falloir rentrer dans le rang. Et il dit ça donc depuis 2021. Et là bah en fait à force d'humilier les gens au bout d'un moment ça finit par péter quoi. Et ce qui s'est passé c'est que au moment où la loi qui fait que le corps électoral va redevenir normal passe à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est-à-dire ces derniers jours, et ben à ce moment-là tout s'est mis à péter. Et là on sait pas bien où ça va, hein. Est-ce qu'on va après quelques dizaines de morts se retrouver à nouveau avec des accords dans 2 ans pour dans 30 ans pour des référendums dans 30 ans, on sait pas bien. Voilà, c'est tout.
Affaire à suivre. C'est presque fini, on a un petit agenda.
Ah bah c'est ça que j'allais demander, est-ce que t'as un petit agenda?
Oui, le samedi, donc ce samedi... Non, parce que j'ai vu que c'est pour 13 avril. Donc je sais pas s'il y a un rassemblement pour la Palestine.
Il y en avait un aujourd'hui devant l'opéra, peut-être qu'il n'est pas fini et que si vraiment vous habitez pas loin, vous pouvez encore le rejoindre. Je pense que c'était pour les 50 ans de la Nakba.
Ah bah oui,
Est-ce que c'est 50? Non, 70? J'ai pas écouté ce que tu disais tout à l'heure, je suis désolé. C'est parce que j'étais concentré sur la technique.
C'était les 76 ans, je crois.
Voilà.
Mais par contre, quand même, en complément de l'info du début là, par rapport à la répression dans les prisons en France suite au mouvement des matons, on vous conseille quand même d'écouter cette émission qui tombe parfaitement bien sur Radio Canu. C'est les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois. C'est l'émission La Petite Cuillère, l'émission anticarcérale de Radio Canu, et c'est de 20h à 21h, donc demain. Ça marche. De 20h à 21h, l'émission anticarcérale. Tendez vos oreilles.
Eh ben, au revoir.
Au revoir. Merci de nous avoir écoutés.
Au revoir.
Radio Canu. C'était le Canu Info. C'était le Canu Info. C'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info. C'était le Canu Info. C'était le Canu Info du mercredi.
retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.